This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire, ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand. Cette année-là, en 1925, la guerre fait rage au Maroc et la France est une des puissances coloniales. C'est le résumé de l'épisode précédent. Mais la France est aussi une puissance d'occupation, puisqu'elle occupe l'Allemagne à l'issue de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, le 1er juillet 1925, la France récupère l'ensemble de ses troupes puisqu'elle évacue la Ruhr, qui est la zone forte de l'Allemagne, la zone industrielle où l'on trouve toutes les industries lourdes. Et c'est une période où on danse, ce sont ce qu'on appelle les années folles, tout le monde s'amuse. On est en 1925 et donc on est à 4 ans de 1929. La crise commence à s'esquisser, on commence à avoir quelques doutes, mais l'après-guerre est encore là. L'envie de s'amuser est encore très présent et rien n'arrête les danseurs, les gens qui font la fête. On essaie d'oublier la période qu'on vient de passer, mais on ne sait pas encore qu'on va entrer dans une période beaucoup plus inquiétante. Alors, en 1925, il va se passer une chose assez étonnante, au fond, qui est le résultat de la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que la venue au cours de la guerre de 14-18, des troupes nord-américaines, canadiennes puis américaines, va amener une musique. Cette musique, évidemment, c'est celle qui nous intéresse dans cette émission, c'est le jazz. Et le jazz, il va arriver avec une tentative, l'arrivée de gens qui vont être en tournée, et notamment une tournée particulière qui va s'appeler la Revue Nègre. En 1925, donc, la Revue Nègre, vers la fin de l'année, arrive à Paris, et ça donne ceci. La Revue Nègre, donc, c'était un spectacle musical créé à Paris, spécialement pour venir en tournée depuis les États-Unis et par son succès. et notamment la personnalité de Joséphine Baker, puisque c'était elle l'égérie de cette revue, elle en fut l'étoile montante et ça a duré plusieurs années. Elle permit entre autres cette revue nègre d'une diffusion beaucoup plus large de la musique de jazz et de la culture noire en Europe. Alors, revue nègre, évidemment, c'était une époque où on pouvait utiliser ce terme nègre, ça ne faisait pas l'objet d'une détestation particulière. Aujourd'hui, je pense qu'on dirait la revue noire pour éviter de faire un écart avec ce qu'il est convenu d'utiliser en matière de vocabulaire. Alors, cette création, eh bien, elle devait donc débarquer à Paris quelques mois avant la fin de la Première Guerre mondiale, mais les choses ne se sont pas faites aussi simplement que ça. Et donc, bien qu'avec le soutien de poètes comme Jean Cocteau, Guillaume Apollinaire, Blaise Cendrars, qui avait participé à la diffusion du jazz à travers le Charleston, notamment dans les dancing parisiens. Alors, la création de cette revue eut pour cadre le Théâtre des Champs-Élysées, qui avait connu de nombreuses heures de gloire à l'époque des ballets russes en 1913 et qui cherchait son second souffle. Alors en 1925, eh bien, André Davin, directeur artistique de ce théâtre parisien, se met en quête d'un nouveau type de spectacle. Et c'est son ami Fernand Léger, le peintre, qui lui attire son attention sur ce que l'on appelait à ce moment-là l'art nègre et dont tous les surréalistes étaient friands. Des gens comme à nouveau Apollinaire, Picasso, Max Jacob, donc, et pratiquement tous les surréalistes étaient intéressés par cet art nouveau qui venait d'Afrique ou d'Amérique du Nord. Et c'est une Américaine que croise André Davin qui va lui donner l'idée, qui va être la meneuse, un peu l'organisatrice ou la productrice de cette revue nègre. Il s'agit de Caroline Dudley Regan, qui d'ailleurs... Ça nous intéresse tout particulièrement à Montpellier parce que Caroline Dudley va devenir l'épouse de Joseph Delteil. Joseph Delteil, né dans l'Aude et qui a fini sa vie à Montpellier, à Grabel, dans une maison appelée la Delteillerie. Voilà, et donc, personnellement, j'ai connu Catherine Dudley une fois qu'elle était l'épouse de Joseph Delteil, donc, mais de nombreuses, très nombreuses années plus tard. Et on imaginait mal qu'une vieille dame très digne, comme elle était, ait pu, en son temps, en sa jeunesse, organiser une revue qui, quand même, était une revue extrêmement légère. C'est donc à New York qu'en véritable impresario, elle a convaincu une douzaine de musiciens, dont Sidney Bechet et 8 chorus girls, dont Joséphine Baker, donc au total une vingtaine de personnes. Elle les a convaincus de partir pour Paris, ville réputée pour sa libéralité, son esprit très ouvert. Je vous rappelle que Joséphine Baker, quand même, dansait nue avec une ceinture de banane au moment de la revue. Et donc, l'esprit artistique de la revue était assez inédit, mêlant à la fois musique de jazz band, chorégraphie originale, numéros burlesques, scénographie à décors mobiles, devant lesquels des corps, en partie dénudés, pouvaient s'exprimer sans vulgarité. On peut dire que ce spectacle constitue un événement au sens où, d'une part, il révèle pour la première fois en France une authentique culture noire détachée des pesanteurs colonialistes. Et d'autre part, il permet à un genre d'essence populaire d'émerger en un lieu réservé aux expériences artistiques de type moderniste. À signaler d'ailleurs que l'affiche promotionnelle de la Revue Nègre fut signée Paul Collin, un de nos plus grands affichistes, un de ceux qui a mis l'affiche au rang de l'œuvre d'art. La première eut lieu le 2 octobre 1925. Joséphine Baker passait en première partie et devant la salle bondée étaient notamment présents Robert Desnos, Francis Picabia, Blaise Cendrars. Le succès fut au rendez-vous. Le producteur remporté son pari et les salles seraient combles jusqu'à la fin de l'année.
Thank you.
Yes, sir, that's my baby. Un fameux morceau à consonance ragtime que l'on entendait durant le déroulement de la Revue Nègre. Alors, d'octobre à décembre, le spectacle ne va pas désemplir, créant un véritable événement. Il faut dire que l'opinion était déjà en partie, préparée à cet événement parce que, depuis 1919, depuis la fin de la guerre, eh bien, le monde artistique s'intéresse beaucoup, beaucoup à l'art nègre. Et on peut d'ailleurs dire que c'est de l'art nègre qu'est né le cubisme et au fond tout l'art moderne, puisque des peintres comme Picasso principalement, mais aussi Braque et beaucoup d'autres s'intéressaient à cette pratique nouvelle, à cet art tout à fait particulier. Et d'ailleurs, il y eut, grâce à la galerie De Vambèze, boulevard Malesherbes, une exposition d'art nègre et d'art océanien qui préluda un petit peu l'arrivée de la Revue Nègre. Alors, en octobre 23, fut créée au Théâtre des Champs-Élysées, deux ans auparavant, la création du monde sur une musique de Darius Milhaud d'après l'anthologie nègre de Blaise Cendrars avec des décors de Fernand Léger dans le cadre des ballets suédois. Donc, on voit par là que l'opinion découvrait un peu aussi, grâce à des expositions, puisqu'il y avait eu l'exposition universelle, découvrait que le monde ne se limitait pas à l'Europe, encore moins à l'Amérique, mais qu'au-delà, il y avait des véritables continents artistiques à découvrir. Alors, c'est pour la petite histoire, disons que, en fait, Joséphine Baker n'a pas été la vedette dès le premier spectacle. Il a fallu attendre 4 jours pour que celui qui réglait la chorégraphie découvre en fait Joséphine Baker qui faisait partie du groupe de danseuses. Et donc il a, on va dire, un peu écarté la chanteuse qui s'appelait Maud de Forest, qui était considérée comme trop américaine. Et donc il a mis au devant de la scène Joséphine Baker qui s'est mis à figurer en scène d'ouverture et en scène finale. Laquelle scène finale sera intitulée « La danse sauvage ». Et c'est cette fameuse danse sauvage qui met en scène Joséphine Baker, seins nus, avec le danseur-comédien Joe Alex, dans un duo érotico-suggestif. À signaler également que l'orchestre, le jazz band, était dirigé par Claude Hopkins, venu donc des États-Unis, et que les décors étaient tout à fait innovants. C'est un ami de Catherine Dudley qui donc les avait réalisés. Alors à la fin de la période d'exploitation à Paris, donc en décembre 25, la troupe, sensiblement remaniée parce qu'elle s'était affinée, les choses s'étaient améliorées, la troupe va donc partir en tournée en Europe et elle va aller à Bruxelles, Berlin, dans tous les pays d'Europe. Et puis, à l'issue de cette tournée, Joséphine Baker rompra son contrat avec Caroline Dudley et de retour à Paris, elle entamera une nouvelle revue à la rentrée 1926, une nouvelle revue qui aura lieu aux Folies Bergères, où c'est là qu'elle inaugurera sa fameuse jupe de banane.
Cloudy day for me. Since good luck came knocking at my door, skies are gray, but they're not gray anymore. Blue sky smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song. Nothing but bluebirds all the day long. Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. I noticed that the days are hurrying along. When you're in love, oh, how they're gone. Bluebirds, all of them gone. Nothing but blue skies all the day long.
Blue Skies, enregistré donc par Josephine Baker en 1927, thème qu'elle inaugurera lors de son retour de tournée après la Revue Nègre, donc au Théâtre des Folies Bergères. Alors, dans les musiciens de cette Revue Nègre, eh bien, il en est un qui, je signale que Josephine Baker restera en France et n'en partira plus, se faisant notamment une deuxième notoriété au moment de la Deuxième Guerre mondiale, où là, elle sera résistante et où elle... elle deviendra française, elle sera naturalisée française. Alors donc, parmi les musiciens, outre le chef d'orchestre, Claude Hopkins, qui dirige l'orchestre de la Revue Nègre, eh bien, il y a un musicien qui lui aussi va s'installer en France et va y rester longuement. Il s'agit de Sidney Bechet. Alors Sidney Bechet, c'est un musicien extrêmement talentueux, mais qui est assez ombrageux. Et donc, au moment où Catherine Dudley le convainc de rejoindre la Revue Nègre, donc on est à la fin 1924, et il s'est fait un petit peu écarter de bon nombre d'orchestres, notamment, il se fait virer de chez Duke Ellington, ce qui n'est pas rien, parce qu'il semblerait que Ellington était quelqu'un qui était relativement tolérant. Et il se fait virer pour raison d'indiscipline. Alors, retard, escapade, histoire d'amour, Sidney Bechet possède un caractère difficile qui nuit à la bonne ambiance du groupe. Et c'est ainsi que Duke Ellington donnera cette raison pour lui demander de partir. Le 17 octobre 1924, Bechet est à nouveau en studio avec le Clarence Williams Blue Five. Et c'est dans cette formation que Catherine Dudley va le contacter. Dans cette formation, il voisine avec Louis Armstrong, King Louis, et il enregistre de nombreux morceaux Donc, durant la fin de l'année 24, et c'est à la toute fin de l'année 24, donc le 17 et 22 décembre 1924, que Sidney Bechet et Satchmo, Louis Armstrong, vont enregistrer les deux virtuoses s'accompagnant des meilleurs musiciens. Je vous propose d'écouter un premier extrait de cette séance d'enregistrement. Il s'agit de Mandy, Make Up Your Mind. Mandy, Make Up Your Mind, une interprétation du Clarence Williams Blue Five le 17 décembre 1924 avec Louis Armstrong au cornet, Charles Davis au trombone, Sidney Bechet donc au saxophone soprano, Clarence Williams au piano, Buddy Christian au banjo et Eva Taylor à la voix, le tout étant enregistré donc à New York. Alors Sidney Bechet, donc, au moment où il enregistre ce morceau, eh bien, se met d'accord pour participer quelques mois plus tard à la Revue Nègre. Mais en attendant, il va lui-même, il poursuit l'idée de créer son propre groupe, qu'il créera d'ailleurs, le New Orleans Creole Jazz Band, et qui sera créé au début de l'été 1925, et qu'il produira au Rhythm Club de New York. Et en septembre, donc, il fera partie de la Revue Nègre, et donc il suivra Claude Hopkins. Et la troupe s'embarquera pour la France au mois le 16 septembre pour arriver à Cherbourg le 22, puisque à ce moment-là, les transports se faisaient en bateau et non en avion, donc ça mettait beaucoup plus de temps. Alors il semble qu'au cours de la traversée, eh bien, Sidney Bechet ait eu une relation amoureuse avec Joséphine Baker. Les traversées étaient longues et donc les gens s'ennuyaient un petit peu. et il n'y avait peut-être pas suffisamment de distractions comme aujourd'hui sur les bateaux de croisière. Et donc, voilà deux musiciens qui ont passé leur temps comme ils le souhaitaient. Enfin bref, la générale eut lieu le 28 septembre à Paris et la revue eut connu évidemment un succès considérable. Alors la troupe, une fois que la troupe fut partie en tournée, les choses se sont un peu mal terminées. Joséphine Baker, comme je le disais précédemment, a rejoint ensuite les Folies Bergères, a abandonné la troupe. Et Sidney Bechet a fait de même. Il laissa tomber le groupe, le chef d'orchestre Claude Hopkins. Et puis il se rejoint un autre orchestre pour une tournée qui était, elle, qui passait par l'Europe et qui se rendait en URSS. Ensuite, il est revenu en France et eh bien, il y est décédé puisqu'il y a passé presque tout le restant de son existence. Je vous propose d'écouter un autre enregistrement avec Sidney Bechet en vedette, si l'on peut dire, en duo, en tout cas avec Louis Armstrong. Il s'agit de Cake Walking Babies from Home. Voilà, ainsi s'achève ce deuxième épisode de l'année 1925. Affaire à suivre.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense j'ai ouvert en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.